m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. En ce jour d'investiture à la Maison Blanche, c'est à travers l'histoire des États-Unis et aussi un peu à travers celle du monde que nous vous emmenons aujourd'hui. Une histoire en parole, puisque c'est à travers des mots, ceux des présidents, que notre invité, l'historien Alain Frère Jean, va nous guider. De ceux de Thomas Jefferson dans la Déclaration d'Indépendance, à ceux de Donald Trump, en passant par Washington, Lincoln, Roosevelt, Kennedy, Reagan ou Obama, bien d'autres encore. Retour donc sur quelques-uns des discours qui racontent l'Amérique, les grands discours des présidents des États-Unis. Le livre d'Alain Frère Jean est disponible chez Archipoche dans la collection Archidoc et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Alain Frère Jean.
Bonjour, Jean-François Cadet.
Quel regard l'historien que vous êtes porte-t-il sur cette cérémonie d'investiture qui a lieu aujourd'hui? C'est un événement qui est vraiment pas comme les autres. C'est une cérémonie d'investiture qui n'a rien à voir?
Qui n'a rien à voir avec les autres pour deux raisons. Premièrement, par l'absence du président sortant qui, contrairement aux 44 précédents sur 45, aux 43 sur 44 qu'il avait précédé, avait toujours assisté au départ du prédécesseur et qui avait en général prononcé un discours d'adieu, a farewell address, indiquant soit ce dont ils étaient le plus fiers, soit comme George Washington de manière beaucoup plus délicate, insistant sur le programme qu'ils léguaient à leur successeur.
Alors justement, l'un des points d'orgue de cette cérémonie, ça va être le discours d'investiture de Joe Biden. Évidemment, il sera largement commenté, analysé à la loupe par les observateurs. L'enjeu d'un tel discours, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est d'abord de rassembler, c'est d'abord de réunir les Américains ?
Certainement, parce que Joe Biden, à la différence de Donald Trump, est fidèle à l'image des pères fondateurs de l'Amérique. Et parmi les pères fondateurs, le plus aimé, le plus zélé, le plus vénéré par tous les historiens qui sont américains, c'est George Washington. Et George Washington, comme d'ailleurs, par exemple, Jefferson ou Lincoln, ils ont mis en première place l'union. Ce qui est important, c'est que les Américains restent unis, car le grand problème qui s'est posé pour Jefferson et pour Washington, c'était que c'était une révolte de 13 colonies indépendantes aux États-Unis, colonies de l'Angleterre. Et rien ne prouvait que ces 15 colonies resteraient unies dans un État fédéré ou confédéré.
Et voilà, et le premier président des États-Unis d'Amérique, George Washington, l'a dit et l'a écrit noir sur blanc dans un discours que vous avez reproduit dans votre livre, Alain Frère Jean.
Et là, je voulais simplement vous citer les deux seules consignes, de résumer les deux consignes qu'il a laissées. N'ayez pas l'esprit partisan, l'esprit de faction. Restez américain avant tout, avant d'être de droite ou de gauche. Bon. Dans les démocraties, dans les régimes fondés purement sur les élections, il ne faut pas encourager l'esprit partisan. Par nature, il est excessif. Il faut donc le calmer, l'adoucir. Tel un feu à ne pas éteindre, il nécessite de le surveiller constamment pour l'empêcher de s'enflammer, de peur qu'au lieu de réchauffer, il n'incendie. Et son deuxième, et j'arrête là, et son deuxième grand message, c'était un message de ne pas s'engager dans des alliances étrangères. Envers les nations étrangères, évitez aussi bien l'antipathie permanente et invétérée que les attachements passionnés. La nation qui cultive une haine ou une dépendance pour une autre devient en quelque sorte son esclave. Elle est esclave de son animosité et de son affection.
Voilà, vous avez retenu plusieurs discours d'investiture, Alain Frère Jean, dans le cadre de cet ouvrage. Là, Washington, c'était un discours d'adieu, donc c'était pas son discours d'investiture que vous venez de citer. Mais le premier discours d'investiture que vous avez retenu, c'est celui de Thomas Jefferson. On est le 4 mars 1801, donc un peu moins de 5 ans après la Déclaration d'Indépendance que Jefferson a écrite et qui figure aussi dans le livre. C'est le premier texte que vous avez retenu, et lui aussi lance un appel à l'union et à la démocratie.
Absolument. Absolument.
Voilà. Et donc là, on est au premier discours d'investiture. Et le dernier discours d'investiture que vous avez retenu, c'est précisément celui de Donald Trump, il y a 4 ans.
This American carnage stops right here and stops right now.
Le carnage américain s'arrête ici et maintenant. Nous sommes une nation. Leur souffrance est notre souffrance. Leurs rêves sont nos rêves. Leurs succès sont nos succès. Nous partageons un cœur, une maison et un destin glorieux. Le serment que je prête aujourd'hui est un serment d'allégeance à tous les Américains. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle vision gouvernera notre pays. Dorénavant, ce sera l'Amérique d'abord. Toutes les décisions en matière de commerce, de fiscalité, d'immigration ou d'affaires étrangères seront prises au bénéfice des travailleurs américains et des familles américaines. Nous devons protéger nos frontières des ravages causés par d'autres pays qui fabriquent nos produits, volent nos entreprises et détruisent nos emplois.
Protection will lead to great prosperity and strength.
Cette protection nous conduira à la prospérité et à la force.
With every breath in my body,
je me battrai pour vous de toutes mes forces et jamais, jamais je ne vous laisserai tomber. L'Amérique sera de nouveau gagnante. Gagnante comme jamais encore.
Avec le recul des 4 ans, Alain Frère-Jean, on peut dire que Donald Trump a fait ce qu'il a dit?
Il a fait ce qu'il a dit, mais ce que je fais remarquer sur son discours, d'abord, c'est que, avec son mot de carnage, il a été tout à fait dans l'esprit des factions et aucune continuité, et c'est une révolte contre son prédécesseur ou ses prédécesseurs.
En même temps, il a quand même appelé à l'unité des Américains, là,
oui,
dans l'extrait qu'on a entendu.
Oui, mais c'est totalement contraire au testament de Jefferson et de George Washington, qui sont les grands promoteurs des États-Unis. Et puis alors, il a fait référence aussi à un slogan qui est « America first
voilà. », « Amérique d'abord ».« Amérique d'abord », c'est une expression qui n'est pas de lui, d'ailleurs.
Elle n'est pas de lui. Elle est de quelqu'un qui était un ami d'Hitler, un très célèbre aviateur, Charles Lindbergh, qui était un homme très courageux.
L'homme qui a traversé le premier l'Atlantique,
Tout seul, et qui, l'esprit dérangé à la suite d'une mésaventure personnelle, puisqu'on lui a assassiné son fils, des ravisseurs lui ont assassiné son fils, il est devenu un peu dérangé, il est devenu un ami d'Hitler qu'il a décoré, et c'est lui qui avait créé et qui était un des grands instigateurs de America First de manière à maintenir les États-Unis dans l'isolement et à ne pas intervenir dans la guerre contre Hitler.
Voilà, ce qu'on appelle l'isolationnisme.
L'isolationnisme.
Mais l'isolationnisme, il est fortement ancré dans l'histoire des États-Unis, hein, depuis George Washington d'ailleurs, non?
Depuis George Washington et ensuite Monroe. Hein,
voilà,
il a été un peu changé à partir de Theodore Roosevelt, et puis à partir de Truman, et puis à partir d'autres,
Et puis il y a quand même eu les Woodrow Wilson, quoi, les 14 points dans les années 1920, juste.
Theodore Wilson d'abord. Theodore Wilson. Qui a prêché la guerre contre l'Espagne.
Woodrow Wilson, qui est un peu l'apôtre de l'ASDN, la Société des Nations, qui est, l'ancêtre avorté des Nations Unies.
Oui, mais ce qui est tout à fait extraordinaire, assez paradoxal, c'est que, justement, Woodrow Wilson, c'est à la fois un homme qui était ardemment partisan de la paix, et c'est lui qui, après avoir été réélu parce qu'il s'était engagé à ne pas entrer les États-Unis dans la Première Guerre mondiale, a proposé au Congrès, après le torpillage de 4 bateaux américains, l'entrée en guerre des États-Unis. Donc il a fait tout ce contraire de ce qu'il a dit, mais s'il a entraîné les États-Unis dans la Première Guerre mondiale, ce n'est pas du tout par un esprit hargneux, conquérant, ambitieux, c'est parce qu'il estimait qu'il allait réussir par ce moyen à mettre fin à toutes les guerres.
Alors, on a parlé de cette expression et de ce slogan « America first » qu'on a entendu dans le discours, effectivement, d'investiture de Donald Trump il y a 4 ans, presque jour pour jour. L'autre expression qu'affectionne Trump, c'est évidemment le slogan « Make America great again ». Là aussi, Alain Frangin, il ne fait que se couler dans les pas d'un autre.
De Ronald Reagan, qui était tout à fait différent de lui, mais qui est un homme tout à fait étonnant, parce que c'est à la fois un obsédé de l'anticommunisme, et c'est en même temps un obsédé qui a la hantise d'une guerre nucléaire, et d'une guerre nucléaire avec l'Union soviétique. Alors ça paraît tout à fait paradoxal.
Comment peut-on... En 1980, pour resituer, donc 1980, élection de Ronald Reagan, première élection, il sera réélu en 1984, donc Reagan, le candidat républicain, l'ancien acteur d'Hollywood, un charisme assez exceptionnel.
Oui.
Il passe
très bien. Au début, quand il fait du cinéma, il fait pas du cinéma du tout propagande. Il n'imagine pas qu'il sera un homme politique. Simplement, c'est un très bon acteur. Mais ce n'est pas un homme à slogan. D'ailleurs, l'une de ses grandes astuces dans ses discours, ce sera souvent de se faire accompagner et de citer des exemples de gens simples pour se rapprocher du commun des Américains. Et par cet exemple simple d'arriver à faire passer ses idées. Ou après avoir parlé de ces gens simples, il glisse son idée. Voilà.
Alors, et parmi ces idées, et là on est vraiment dans ce contexte des années 80, le contexte de la guerre froide, donc entre l'Union soviétique et les États-Unis, entre l'Est et l'Ouest, il y a ce qu'on a appelé l'IDS, l'initiative de défense stratégique, ou comme l'ont appelé les médias, la guerre des étoiles. On est dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Ronald Reagan s'exprime face caméra le 23 mars 1983.
Laissez-moi partager avec vous une vision porteuse d'espoir. C'est de nous embarquer sur un programme offrant une parade purement défensive à la menace des effroyables missiles soviétiques. Tournons-nous vers les vrais points forts de la technologie, source de la grande base industrielle à laquelle nous devons la qualité de vie dont nous jouissons aujourd'hui. Et si les peuples libres pouvaient vivre en sécurité, sans que cette sécurité repose uniquement sur la dissuasion d'une attaque soviétique par la menace de représailles américaines immédiates, sachant que cette sécurité reposerait plutôt sur notre capacité à intercepter et détruire les missiles balistiques stratégiques avant qu'ils ne pénètrent sur notre territoire ou celui de nos alliés, je reconnais que c'est là un projet technique formidable, un projet qu'on ne parviendra pas à réaliser avant la fin de ce siècle. Pourtant, la technologie actuelle a atteint un tel niveau de sophistication qu'il n'est pas déraisonnable pour nous d'entreprendre ce projet.
Voilà, l'IDS, donc l'initiative de défense stratégique, les médias ont tout de suite embrayé, donc en parlant de guerre des étoiles, on pense évidemment au film à l'univers, la guerre des étoiles de George Lucas. L'IDS qui a été officiellement abandonnée 10 ans plus tard, hein, en 1993 par l'administration Clinton. Alain Frangin, et le chapitre que vous consacrez au président Reagan, il montre très précisément toute l'évolution de l'histoire stratégique mondiale des années 80. Quoi. C'est extraordinaire.
Mais je ferai d'abord une petite parenthèse.
Allez-y.
Ce qui est absolument prodigieux, c'est qu'on voit là Reagan qui est obsédé par la crainte d'une agression nucléaire soviétique, et c'est Ronald Reagan qui, avec Mikhail Gorbatchev, vont mettre fin définitivement à la guerre froide.
Voilà.
Bravo.
Voilà
une décennie.
En une décennie. En une décennie, c'est incroyable
c'est
le chemin
incroyable.
Que Reagan
personne.
A pu faire. Grâce aiguillonnée, en quelque sorte, par le dirigeant soviétique de l'époque.
Alors, la deuxième chose qui était extraordinaire, c'est cette guerre des étoiles. C'est un terme qu'a inventé, repris par Ted Kennedy, qui ne pouvait pas souffrir, qui était jaloux de Reagan, parce qu'il y avait un film qui venait de tourner, un film un peu comique qui venait de tourner. C'est étonnant qu'un homme qui n'a aucune formation scientifique ait eu cette idée de bouclier spatial. Car la grande idée de Reagan, c'est il faut éviter une attaque nucléaire soviétique. Mais ce n'est pas forcément en ayant les mêmes, c'est la défense ayant nous-mêmes nos missiles balistiques et comparé aux missiles balistiques de l'adversaire, c'est une dissuasion par la vengeance, par les représailles. Ça veut dire, si vous m'envoyez un missile balistique et vous me détruisiez New York, moi je vais vous, le coup d'après, c'est moi qui vous détruis Moscou. Mais c'est pas ça qui réveillera les morts de New York. Donc, est-ce que plutôt que d'avoir deux forces de représailles, l'un et l'autre, nous ne devrions pas nous entendre pour avoir l'un et l'autre, un bouclier spatial pour arrêter en cours de route le missile qui vient nous attaquer et le détruire? C'est ça, cette idée absolument géniale d'avoir un satellite bouclier spatial qui est capable, où il y a des équipements qui sont capables de discerner et de localiser en quelques secondes le missile qui vient de partir de l'autre continent et d'avoir des équipements d'interception qui vont pouvoir le faire exploser en vol dans les deux minutes suivantes. C'est absolument prodigieux, voilà. Ça.
L'Amérique face à l'Empire du Mal. L'Empire du Mal, c'est une autre expression qu'il utilise devant l'association des évangéliques, hein, Ronald Reagan. Et ensuite, effectivement, il va discuter avec cet Empire du Mal, avec Mikhail Gorbatchev, et construire un lien étroit. C'est l'expression qu'il utilise lui-même.
Et lorsque invité par Mikhail Gorbatchev à Moscou pour y signer une dizaine de traités de toutes sortes, ils vont se promener ensemble, presque bras dessus bras dessous, sur la place rouge, devant la population. Gorbatchev va lui dire: alors, monsieur Reagan, vous croyez toujours que nous soyons l'Empire du Mal? Et il lui répond, Reagan lui répond: mais non, ça c'est de l'histoire ancienne, c'est fini ça. Voilà.
Voilà. Alors, dans les discours de Reagan que vous avez choisi de rassembler dans votre ouvrage, il y a aussi celui qu'il prononce à Berlin, le 12 juin 1987, avec cette exhortation: abattez ce mur, tear down this wall. Et là, on est obligé de penser à un autre discours de Berlin, un peu plus tôt, celui de Kennedy, évidemment, le 26 juin 1963.
All free men, wherever they may live,
tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont citoyens de Berlin.
And therefore, as a free man,
aussi, en ma qualité d'homme libre, j'ai la fierté de dire: Ich bin ein Berliner.
Ouais, et la phrase est évidemment entrée dans l'histoire. Est-ce qu'elle a eu un vrai impact politique, cette phrase?
Zéro, absolument zéro. C'est une phrase qui a fait plaisir aux Français, ça. Mais moi, ce qui me fait penser...
Et aux Allemands aussi, un peu, non?
Non, ils n'y ont pas cru. Et regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé en Allemagne depuis 1963 jusqu'à ce discours de 1987. Et par contre, donc ce discours, c'est à l'époque où Reagan ne croit encore au péril soviétique. Il ne croit pas encore il commence à croire à Gorbatchev, à échanger une correspondance avec lui, mais il ne sait pas si Gorbatchev est vraiment suivi par les gens qui l'entourent. Il n'a pas un accès parfait. Et il lui dit: si vous voulez arrêter le conflit de préjugés que nous avons, nous les Occidentaux, contre vous, et que vous avez, vous, contre nous, ce sont des préjugés, eh bien, donnez l'exemple en abattant ce mur. Et cette idée, et en même temps, il fait d'une pierre deux coups, parce que il a l'air de supposer que c'est Gorbatchev qui aura l'autorité pour détruire le mur de Berlin, en passant par-dessus la tête de Erich Honecker, qui est le patron
de l'Allemagne
de l'Est. C'est une manière... Mais moi, ce discours me fait penser à l'inverse, au discours de notre ami Donald Trump, avec « élevez donc ce mur à la frontière du Mexique !» Et Gorbatchev va commencer à arrêter la guerre froide avec ce discours: abattez ce mur qui divise l'Europe en deux.
de USA et le boss Bruce Springsteen dans VMDN sur RFI avec l'historien Alain Frère-Jean, dont le livre « Les grands discours des présidents des États-Unis » est disponible chez Archidoc avec une préface de Nicole Bacharan. Le livre présente donc, je le rappelle, chronologiquement toute une série de textes qui ont marqué l'histoire de l'Amérique. Le premier d'entre eux, c'est évidemment la Déclaration d'Indépendance, hein, 4 juillet 1776, écrite par Thomas Jefferson, qui deviendra lui-même président 25 ans plus tard. Tout de suite après, il y a le premier message sur l'état de l'Union prononcé par le premier président des États-Unis, George Washington. On en parle tous les ans, hein, sur RFI, de ce fameux discours sur l'état de l'Union. Il a lieu chaque année au Capitole. Le président s'exprime devant les deux chambres réunies en congrès. C'est une sorte de discours-programme de l'année qui s'ouvre, un discours sur l'état de l'Union ?
Oui, c'est un discours... Non, c'est pas vraiment un discours, c'est un discours sur la situation. Mais George Washington, avant tout, ne veut pas être un monarque. Il ne veut pas excéder son pouvoir. Et il souhaite rendre compte un petit peu des lois qui ont été votées par le Congrès pendant la première année de sa présidence et de la manière dont il les a exécutées. Il ne veut pas discuter de leur bien fondé. Il veut rester, se cantonner dans son état de chef du pouvoir exécutif, c'est-à-dire d'exécuter les lois qui, conformément à la Constitution, sont votées, pas par lui, sont votées par le Congrès.
Et ses successeurs lui ont emboîté le pas, se sont glissés dans ce sillon-là ?
Pas toujours, pas toujours. Cher Jean-François, lorsque Nixon a décidé de bombarder le Cambodge et même de faire la guerre au Vietnam, et il n'a pas demandé l'avis du Congrès. Il a demandé l'avis du Congrès à un moment pour envoyer quelques petites troupes après que deux bateaux aient été soi-disant torpillés dans le golfe du Tonkin. Hein. Mais finalement, Johnson et Nixon ont envoyé 500 000 hommes au Canada, en Indochine, au Vietnam. Ils ont bombardé un pays neutre qui était le Cambodge. Ils ont fait nettoyer au napalm des villages avec des populations civiles sans avoir du tout l'avis du Congrès.
Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant d'étudier justement le rapport qu'il y a entre le président des États-Unis et le Congrès, parce qu'on se rend compte, par exemple, à travers votre livre, que le discours de Johnson sur la grande société, c'était pas devant le Congrès, c'était à l'université de Michigan. Le discours de Kennedy sur la nouvelle frontière, c'était pas devant le Congrès non plus, c'était à la convention du Parti démocrate. En fait, les discours les plus fondateurs politiquement des présidents américains sont pas forcément les discours les plus officiels.
Non, il n'y a pas que le discours officiel. Mais ce qui est très, pour moi, la chose la plus importante de toutes depuis un siècle, c'est la guerre. Hein. C'est la guerre civile et la guerre militaire. Alors, en ce qui concerne la guerre militaire, il faut remarquer qu'il y a un certain nombre de guerres qui ont été votées par le Congrès, comme l'entrée dans la Première Guerre mondiale, l'entrée dans la Deuxième Guerre mondiale, mais ce n'est pas le cas de la guerre de Corée, ce n'est pas le cas de la guerre du Vietnam, c'est important, et de quantité de petites guerres dont on ne nous parle pas, qui sont au Nicaragua, au Guatemala ou au Costa Rica.
Alors, c'est vrai que la guerre est extrêmement présente dans les discours que vous nous présentez dans le livre. Il y a par exemple les discours des deux présidents Bush, hein, le père et le fils, sur les interventions respectives en Irak. Il y a évidemment la guerre de sécession. Alors, on va s'arrêter un peu sur la guerre de sécession, parce que il y a Lincoln, par exemple, en 1862, on est en pleine guerre de sécession, et il parle de l'esclavage. Qu'est-ce qu'il dit ? Lincoln, c'est vraiment un discours fondamental.
Alors, Lincoln n'aimait pas l'esclavage, mais conformément à la Constitution des États-Unis, qui ne parlait pas de l'égalité avec les Noirs, qui ne parlait pas des Noirs, la condition des Noirs était réglée, était laissée à la bonne justice des différents États. Alors, il se trouve que les États du nord des États-Unis ne toléraient pas, ne reconnaissaient pas l'esclavage, mais que les États du sud le pratiquaient à très grande échelle. Bon. Et les États du Nord s'interdisaient d'intervenir dans les États du Sud, et la Constitution les obligeait même à renvoyer, à arrêter les Noirs qui seraient fugitifs dans le Nord et à les renvoyer à leur maître. Donc Lincoln n'était pas du tout un partisan de l'abolition, parce qu'il pensait que l'abolition amènerait à la désunion des États-Unis. Ce qu'il voulait absolument, c'était maintenir l'unité des États-Unis. Et tout ce qui tournait à l'esclavage lui faisait peur, parce qu'il pensait que ça pouvait être une course de désunion. Alors, ce qu'il a voulu faire dans ce discours, il a voulu déclarer que l'expansion des États-Unis qui allait se faire vers l'Ouest et créer de nouveaux États dans l'Ouest des États-Unis, là, il n'y aurait pas le droit à l'esclavage. Et il se trouve que les États du Sud, qui ont voulu développer leur implantation dans l'Ouest, ont voulu avoir le droit d'y mettre des esclaves, et c'est ça qui a déclenché la guerre.
Alors, il y a l'unité des États-Unis qui est effectivement au centre de nombreux discours, et puis aussi l'intégrité des États-Unis, l'intégrité du territoire. Je pense par exemple au discours de Franklin Delano Roosevelt le 8 décembre 1941. On est au lendemain de l'opération japonaise contre la base de Pearl Harbor.
Yesterday,
hier, 7 décembre 1941, date à jamais marquée du sceau de l'infamie, les États-Unis d'Amérique ont fait l'objet d'une attaque soudaine et préméditée des forces aériennes et navales de l'Empire du Japon. L'attaque d'hier sur les îles Hawaï a infligé de graves dommages aux forces militaires et navales américaines. J'ai le regret de vous dire qu'un grand nombre d'Américains y ont perdu la vie. En ma qualité de commandant en chef de l'armée et de la marine, j'ai donné l'ordre de prendre toutes les mesures nécessaires à notre défense. Mais nous nous souviendrons toujours de la nature de l'assaut dirigé contre nous. Peu importe le temps qu'il nous faudra pour refouler cette invasion préméditée, le peuple américain, grâce à sa puissance légitime, se fraira un chemin jusqu'à la victoire totale.
Voilà, on sent la colère, on sent la détermination hein, dans la voix de Roosevelt. Alain Frère-Jean, est-ce qu'on peut rapprocher ce discours de celui de George Bush après les attentats du 11 septembre 2001
Peut-être. Ce qui est à remarquer, en tout cas, c'est que l'un comme l'autre ont toujours pris l'avis du Congrès. Ils n'ont jamais déclaré la guerre sans avoir l'avis du Congrès. Il faut leur reconnaître cette voilà. Je pense que George W. Bush s'est complètement trompé d'adversaire, alors que c'était pas le cas de Franklin Roosevelt.
De Franklin Roosevelt,
oui.
Évidemment. Alors, bon, Roosevelt, seul président américain élu à avoir accompli 4 mandats, ce qui évidemment est plus du tout possible aujourd'hui. Il a fini très affaibli par la maladie. Hein, et il a affronté en plus non seulement la guerre, mais aussi les conséquences économiques de la crise de 29, après avec son fameux New Deal. Roosevelt, président qui meurt en fonction.
Oui.
Président très apprécié aussi de l'histoire des États-Unis, hein, extrêmement populaire. Aujourd'hui encore ?
Franklin Roosevelt, d'abord, c'est l'homme qui vous a sauvé, Jean-François,
voilà.
Et qui m'a sauvé.
Oui.
C'est l'homme qui nous a sauvé de Hitler.
Ouais, qui a sauvé le monde libre.
Qui a sauvé le monde libre. Enfin, il y a également tous les millions de soldats de l'armée rouge. Et puis, il y a un certain nombre d'autres personnes, françaises ou polonaises. Mais Roosevelt est un des éléments absolument essentiels comme individu. Parce que avant d'entrer en guerre contre Hitler, c'est d'ailleurs Hitler qui, par une des rares vraiment conneries qu'il ait faites, a déclaré la guerre aux États-Unis. On se demande vraiment pourquoi. Hein. Bon, mais Roosevelt était depuis 1937 persuadé, comme Churchill, que Hitler était le diable et amènerait la destruction de toutes les démocraties les unes après les autres. Mais il avait le Congrès contre lui et il avait la majorité de l'opinion américaine contre lui. Et il a toujours été respectueux du Congrès. Alors il s'est arrangé par des ruses, par des astuces, à détourner ça et à aider considérablement l'un des belligérants qui était l'Angleterre avec des petits moyens détournés qui ont permis la survie de l'Angleterre jusqu'à ce que l'armée américaine puisse vraiment débarquer en Normandie.
Voilà, donc Roosevelt, président très apprécié de l'histoire des États-Unis, tout le contraire de Nixon qui lui est parti par la petite porte hein, après le scandale du Watergate, cette rocambolesque affaire d'espionnage politique révélée par le Washington Post. Le voici, l'air grave, face caméra, le 8 août 1974.
Je démissionnerai donc de la présidence demain à midi. Et le vice-président Ford prêtera aussitôt serment ici même.
Il n'y a pas beaucoup de discours comme celui-ci hein, dans l'histoire des États-Unis, des discours de démission.
Non, Nixon est un type très astucieux. Hein. Il a senti qu'il allait être destitué publiquement, alors il a pris de court et c'est lui qui a donné sa démission. Et dans ce discours, au lieu de dire « j'ai péché » pour cette petite connerie d'écoute de mes rivaux démocrates, et il s'est contenté de faire le bilan positif de son action. Bilan très positif, puisque c'est lui qui a mis fin à la guerre au Vietnam quelques semaines plus tôt. Et c'est lui qui a mis fin à une première étape de la guerre froide en signant des traités avec en étant merveilleusement reçu par Mao Tse-tung et par Brejnev. Hein. Donc c'est un homme qui a été très positif et qui, à la fin, se fait prendre. Pourquoi ? Parce qu'il a couvert une bêtise et il a menti. Et aux yeux des Américains, le mensonge, c'est une chose impardonnable. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons.
Stay. Lady Gaga. Gaga qui a été choisie pour chanter l'hymne américain à la cérémonie d'investiture de Joe Biden ce mercredi et qui a chanté cette chanson Million Reasons devant Barack Obama pour un gala de charité au profit des victimes des ouragans de 2017 dans le sud des États-Unis. Barack Obama, faut-il le rappeler, premier président noir de l'histoire des États-Unis que l'on ne pouvait pas ne pas évoquer évidemment dans cette émission. On va l'entendre, Barack Obama. À ce moment-là, il n'était pas encore président. Hein. C'était le 8 janvier 2008 à Nashua dans le New Hampshire pendant les primaires démocrates.
For when we have faced down impossible odds.
Lorsque nous avons surmonté des épreuves en apparence insurmontables, lorsqu'on nous a dit que nous n'étions pas prêts ou que nous ferions mieux de ne rien tenter, des générations d'Américains ont répondu par un simple credo qui résume l'esprit de tout un peuple. Oui, nous pouvons. Oui, nous pouvons. Oui, nous pouvons.
It was a creed written into the founding documents.
Ce credo était inscrit dans les documents fondateurs qui ont clamé le destin de notre nation. Oui, nous pouvons. Il a été murmuré par les esclaves et par les abolitionnistes, alors qu'à travers les nuits les plus sombres, ils traçaient une piste vers la liberté. Oui, nous pouvons. Les immigrants l'ont chanté lorsqu'ils mettaient le cap depuis de lointains rivages. Et les pionniers qui poussaient vers l'ouest à travers une nature impitoyable. C'était l'appel des travailleurs à se syndiquer, des femmes à obtenir le droit de vote, d'un président qui choisit la lune pour nouvelle frontière et d'un roi qui nous a conduits au sommet de la montagne pour nous montrer le chemin vers la terre promise. Oui, nous pouvons la justice et l'égalité.
Yes, we can.
Oui, nous pouvons l'opportunité et la prospérité. Oui, nous pouvons guérir cette nation. Oui, nous pouvons réparer ce monde. Oui, nous pouvons.
Bon, il s'est passé clairement quelque chose ce jour-là.
Ce qui est remarquable, c'est d'abord la répétition, qui est un très bon moyen d'orateur.
Les anaphores.
Le deuxième, c'est au lieu de dire « moi, je », comme a fait son successeur, je ne sais combien de fois, de dire « nous, we can », c'est « nous ». Et puis « can », c'est « pouvoir », c'est faire appel justement à la force et à la fierté des Américains, l'esprit d'entreprise, l'esprit de création, l'esprit de ne pas être des suiveurs. C'est déjà trois choses positives. Mais dans ses discours de candidate de campagne, une chose très intéressante aussi, c'est qu'il a su à la fois parler des malheurs et des difficultés, des handicaps de ce qu'il fallait faire pour les Noirs, mais qu'il a aussi parlé de ce qu'il fallait faire également pour certains Blancs de classe moyenne qui étaient un petit peu désespérés par la fuite des emplois vers d'autres continents. Donc il a été très équilibré, il a parlé avec beaucoup de calme, il n'a pas été l'avocat contre les Noirs, ni contre les Blancs. Il a essayé de penser à tous.
Voilà, et puis on se dit aussi, en l'écoutant, quel formidable orateur. C'était le meilleur président à une tribune, Barack Obama ?
Peut-être. Il y a beaucoup de très bons orateurs. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est pour ceux qui veulent bien lire ce livre, c'est de voir les talents oratoires différents des uns et des autres. Il y a différentes manières de plaire. Hein. Comme il y a différentes manières de raconter les mensonges. Là, pour Trump, ça a été à travers ses tweets de raconter le mensonge d'une violation électorale. Mais si on regarde le mensonge dont ont été victimes les Américains derrière George W. Bush, qui a été le premier victime du mensonge, ce sont des rapports de la CIA racontant que l'Irak détenait des stocks considérables d'armes chimiques et était disposé à les confier à des terroristes, ce qui a amené George W. Bush à la deuxième guerre contre l'Irak, qui a fait des milliers de morts, y compris des milliers de morts civils, et qui a mené à une occupation de l'Irak pendant 8 ans, sans aucun résultat appréciable. Ça aussi, c'était être victime de trompeurs, de canulars, de méchants canulars.
Alors voilà, on en revient justement à Donald Trump et à la cérémonie d'investiture de Biden aujourd'hui. Obama Obama, il est rentré à la Maison Blanche le 20 janvier 2009. 12 ans plus tard, donc jour pour jour, Kamala Harris devient vice-présidente des États-Unis aux côtés de Biden, qui lui-même était le vice-président d'Obama. Ça veut dire, Alain Frère-Jean, que la présidence Trump aura été une parenthèse?
C'est une parenthèse dans l'histoire des États-Unis. Je suis sûr que George Washington, qui pour moi est le père fondateur avec Thomas Jefferson, il se retournerait dans sa tombe. Ah, c'est sûr.
L'avenir de la politique américaine, c'est Kamala Harris, au-delà du symbole.
Je ne sais pas, mais j'adore l'Amérique. J'ai vécu la libération. Et j'adore les Américains. Et surtout, alors en plus, il y a un Américain dont on n'a pas parlé et que l'on ne donne pas la place qu'il faut, c'est Harry Truman.
Oui, vous êtes son biographe.
Avec le plan Marshall. Donc je suis absolument pour les Américains. Et pour moi, j'espère que ce qui vient de se passer est une parenthèse et qu'elle sera vite oubliée. Et j'ai confiance dans Joe Biden pour amener une certaine réconciliation et à ne pas faire des excès. Je crois que justement, ce que recommandait George Washington, c'était la liberté, mais libre discours, mais sans excès, en restant respectueux de ses limites, en pensant aux effets que ça peut produire.
Merci beaucoup, Alain Frère-Jean, d'être venu nous voir. Je rappelle que votre livre « Les grands discours des présidents des États-Unis » est publié en poche chez Archidoc. Et bonjour, Alain Pilot.
Bonjour Jean-François, bonjour Alain Frère-Jean.
Funky Family, Alain, un groupe originaire de Bayonne, au Pays Basque.
Oui, le Old School Funky Family, ou OSFF pour les intimes, qui va aussi peut-être vous sauver avec sa musique, pourquoi pas. 15 ans d'existence, plus de 300 concerts, dont une tournée en Grande-Bretagne, 4 albums, une quarantaine de compositions, la majeure partie instrumentale. Alors, que racontent des chansons sans paroles? Et c'est Jérôme Martino Ricotti, le batteur-compositeur, qui joue les porte-paroles de cette octette.
Que raconte une chanson sans paroles? C'est des sensations, des couleurs, des paysages. Ça rappelle aussi à des souvenirs par rapport à des voyages que j'ai pu faire ou que nous avons pu faire lors des différentes tournées qu'on a pu faire depuis maintenant 16 ans avec ce groupe. Pas mal aussi de culture de jeux vidéo. Et du coup, pas mal d'habitudes de musique de jeux vidéo. Et du coup, je sais que quand je compose un morceau, j'ai pas mal d'images. J'aime bien pouvoir aller d'un paysage à un autre dans une espèce de trame progressive, comme dans le morceau « Le bon, la brute et le centriste ».
Old School, Funky Family, le bon, la brute et le centriste. On a donc déjà une petite idée de leur intention.
Oui, celle de proposer une musique instrumentale imagée, voire scénarisée, jonglant habilement entre exigences rythmiques et harmoniques, tout en se voulant accessible au plus grand nombre. Des musiciens très imprégnés par les musiques africaines, au point de s'approprier un morceau de Manu Dibango, Big Blow, pas son plus connu. Pourquoi celui-ci, Jérôme Martino Ricotti?
Parce que c'est un morceau que j'aime beaucoup. C'est un morceau que j'ai découvert quand on a joué pour l'ouverture du Festimé avec un groupe qui s'appelait à l'époque OKB. C'était en 2003, je crois. Et en fait, c'était Manu Dibango qui était le parrain du festival. Et du coup, le maire de mon village, Saint-André-de-Seignanx, à l'époque, s'était dit « Ah, mais c'est Manu Dibango qui parraine le festival. Si vous voulez, on va installer une scène. » vous vous installez, et si vous voulez, vous faites un petit concert, comme ça, une fois qu'il a terminé l'inauguration du festival, bah, du coup, il y a de la musique, et là, du coup, on s'était motivé avec les musiciens pour travailler quelques titres de Manu Dibango, et du coup, il y avait Big Bro, en fait, et du coup, Manu Dibango est arrivé, il y avait eu un truc qui avait été géré plus ou moins avec sa manageuse de l'époque, qui lui avait pris son saxophone, et du coup, en fait, lui était pas au courant, il est sorti de l'inauguration, il y avait, je sais pas, une centaine de personnes sur la place du fronton de Saint-André de Seignanx, une scène, nous on était installés, on a commencé à jouer Big Blow, il y a sa nièce qui lui a porté son saxophone, et là du coup, il s'est senti obligé de sortir son saxophone, et il a joué Big Blow avec nous.
Manu Dibango par le Old School Funky Family dans VMDN sur RFI.
Et l'Afrique encore présente avec la participation de la chanteuse franco-congolaise de la formation Kolinga, Rebecca Mungu, une association que nous explique Jérôme.
On avait envie de faire une collaboration avec Rebecca depuis un petit moment, sachant que moi je suis absolument pas objectif, mais je suis hyper fan de tout ce qu'elle fait, de comment elle chante, de comment elle écrit, de comment elle compose. Voilà, toute son âme, toute sa soul qui réussit à ressortir dans ses textes et dans ses chansons. Et puis, du coup, on a travaillé ensemble. Quand on lui a proposé, elle était hyper partante. Et début 2019, quand on a commencé à enregistrer l'album, peu de temps avant, la chanson n'était toujours pas écrite ni composée. Et au final, ça s'est fait en 3 semaines de manière hyper fluide. On a apporté les partitions aux copains, on a fait... 2-3 lectures, 2-3 ajustements, 2-3 arrangements, et puis 5 jours après, la version a été enregistrée, filmée. Et du coup, ouais, on est hyper content de ce morceau. Voilà, ça faisait un moment qu'on voulait faire quelque chose avec Rebecca, et on l'a fait, et que ce soit sur cet album-là, pour cette chanson-là, on est hyper content.
Merci infiniment, Jérôme Martino-Ricotti.
Merci, Alain Pilot.
Closer to Eternity, Old School Funky Family, avec la participation de Rebecca Mungu. 4e album donc de cette formation Tonus, il est sorti chez Plein Poumon Productions, Take It Easy Agency. Merci beaucoup Alain. Dans un instant le journal, demain on repart à New York avec une bande dessinée intitulée Yellow Cab, signée de Christophe Chabouté qui adapte Benoît Cohen à deux. RFI